Peut-être que avec les chants que j'ai pris ce matin, peut-être normalement il y a un thème en tout cas qui est ressorti. Tonton l'a exprimé d'ailleurs dans sa prière. Et voilà la première question, mais c'est pas une question. Voilà, tout le monde sait à quoi ressemble un lion, je pense. Tout le monde en a déjà vu. Un animal magnifique, majestueux, puissant, fort, amenant du respect, de la crainte. Et tout le monde a déjà vu aussi donc un agneau. Un animal doux, fragile, paisible, symbole de l'innocence, de la pureté. Et voilà, donc pourquoi j'évoque ces deux animaux ce matin, je pense que vous l'avez compris, encore une fois, Christ, le lion et l'agneau. Et j'évoque ces deux animaux ce matin parce que ces deux animaux sont quand même bien distincts, on pourrait même dire presque opposés, si on regarde dans la nature. Et pourtant, donc, ces deux ne font qu'un. Qu'un dans l'histoire de l'humanité, deux conciliés dans un seul être qui est donc Jésus-Christ, notre Seigneur. Et si je vous parle de ces deux images ce matin, c'est parce que ce contraste justement entre ces deux animaux m'a toujours un peu interpellé, entre le lion et l'agneau. Et donc j'ai voulu revenir ce matin avec vous sur ces images pour nous rappeler ce qu'elles signifient, pour comprendre la portée de ces images, ce qu'elles veulent nous apprendre donc encore aujourd'hui sur Christ. Et pour ça, je vais relire d'abord donc, un passage qui se trouve dans Apocalypse, au chapitre 5, versets 1 à 9. Et je reviendrai plus particulièrement, ou je m'arrêterai plus particulièrement sur les versets 5 et 6. Donc pour ceux qui ont une Bible, n'hésitez pas à l'ouvrir, on va le prendre ensemble. Donc Apocalypse, chapitre 5, versets 1 à 9. Puis je vis, dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis, au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et quand il eut pris le livre, les 4 être vivant et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Je me suis arrêté au verset 10. Alors dans ce passage, nous sommes devant une scène, un événement important, solennel. Et si on veut même compléter cette scène, il faudrait qu'on revienne un peu plus en avant dans le chapitre 4, qui décrit encore un peu plus. Donc on voit un trône, et du trône sortent des éclairs, des voix, des coups de tonnerre. C'est chapitre 4, verset 5. Autour, 24 trônes avec 24 vieillards ou anciens, ça dépend des traductions. Au milieu du trône et autour du trône, 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Et tous sont là. Et comme nous le dit le verset 10 donc du chapitre 4, « Et adore celui qui vit au siècle des siècles. Rende gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône. » Donc on est devant cette scène aussi. En tout cas, l'apôtre Jean a cette vision et devant cette scène. Et un ange, à ce moment-là, lui pose une question. Et pas lui directement d'ailleurs, pose une question qui est qui est digne d'ouvrir le livre ? Ce livre donc qui est écrit en dedans, en dehors, scellé de 7 sceaux, qui est dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Oui, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ? Silence. Personne ne sait que répondre. C'est un moment, à ce moment-là est un moment d'infini respect, mais aussi d'un immense effroi. Qui oserait avancer ? Qui oserait prendre donc des mains de Dieu le livre dont les pages ont inscrit l'histoire de toutes choses du début à la fin. Ce livre donc fermé par sept sceaux qui, dans l'Apocalypse, ensuite nous sont présentés, et présentent chaque ouverture en fait est présentée comme le déclenchement des jugements qui toucheront la terre, qui toucheront l'humanité. Qui donc pour ouvrir ce livre ? Personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne peut ouvrir le livre, ni le regarder. Personne n'a la dignité, personne n'a la capacité d'ouvrir le livre, et ni même encore, il est précisé, de le regarder. Quelle tristesse, quel drame. Personne pour répondre à cette invitation, ce qui amène d'ailleurs l'apôtre à pleurer. Mais la scène ne s'arrête pas là. L'un des vieillards lui dit alors, « Ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. » Aussitôt, l'instant d'effroi fait place à l'apaisement. Soyons rassurés, oui, quelqu'un est digne d'ouvrir le livre. Pas un ange, pas un homme, un lion. Et dans ce lion, nous reconnaissons bien sûr Jésus-Christ. Jésus-Christ, donc le lion de la tribu de Juda. Donc on arrive à cette première image que j'évoquais tout à l'heure, ce nom faisant référence à notre Seigneur, le lion, et plus précisément le lion de la tribu de Juda. Alors pourquoi cette appellation ? Déjà, on peut repartir dans Genèse au chapitre 49, versets 8 à 10, qui nous dit « Juda, tu recevras les hommages de tes frères, ta main sera sur la nuque de tes ennemis, les fils de ton père se prosterneront devant toi. Juda est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne, qui le fera lever ? Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. » Ce titre remonte donc en fait à la bénédiction finale de Jacob sur ses fils avant sa mort. Et dans cette bénédiction, il appelle Juda un jeune lion. Et le lion, d'ailleurs, orne encore aujourd'hui certains édifices à Jérusalem, où on peut encore le voir. Et si Juda lui-même, donc la tribu, est un jeune lion, il convient alors d'appeler le plus grand membre de la tribu de Juda, effectivement, le lion de Juda. Et Christ est, bien sûr, de la tribu de Juda, descend de David. Et en cherchant dans la Bible, on s'aperçoit que cette appellation, d'ailleurs, elle n'est pas donnée ailleurs au Messie. On la trouve que, en tout cas je ne l'ai pas trouvée, je pense qu'elle n'y est pas ailleurs, mais que à cet endroit-là, par rapport à Christ, qui est le lion de la tribu de Juda. Mais il n'est pas difficile de comprendre pourquoi elle est utilisée ici. La force du lion, sa place incontestable de roi des animaux, en font un emblème approprié du Messie tout-puissant qu'attendaient les Juifs. Messie qui devait donc être, encore une fois, de la tribu de Juda. Le lion devient ainsi l'emblème d'une personne dotée d'une autorité royale, d'un pouvoir. Et c'est parce que Christ a le pouvoir d'ouvrir les sceaux, car il règne sur l'univers, que tous les événements sont sous son contrôle, comme le lion règne dans la savane ou parfois on dit dans la forêt, que ce nom lui est donné ici. Christ, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, comme on peut le lire aussi dans Apocalypse au chapitre 19. Christ que Dieu a souverainement élevé et à qui il a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ça se trouve dans la lettre aux Philippiens. Christ peut être comparé à un lion également en raison de sa grande force. Lui, le roi des rois, le Dieu puissant qui vient sauver et libérer les captifs. Dans Luc, chapitre 4, on peut lire aussi « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». C'est Jésus qui parle. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Christ aussi, le lion, le héros des animaux ne reculant devant qui que ce soit. Ça vient des Proverbes, chapitre 30. Lui, qui a résisté au diable, à la tentation, qui n'a pas eu peur d'affronter les puissances du mal, ces démons sur qui il avait autorité pour les chasser. Mais Christ aussi, le protecteur de son Église, de son peuple, tout comme le lion veille et protège son clan. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira jamais de ma main. Christ, l'éternel Dieu, qui marche devant nous et qui a combattu pour nous, ce qui nous est rappelé aussi d'ailleurs dans l'histoire du peuple d'Israël, comme dans le livre du prophète Josué. Mais attachez-vous à l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à ce jour. L'Éternel a chassé devant vous des nations grandes et puissantes. Et personne, jusqu'à ce jour, n'a pu vous résister. Un seul d'entre vous en poursuivait mille, car l'Éternel, votre Dieu, combattait pour vous, comme il vous l'a dit. Donc Christ, comme un lion puissant, ayant autorité, mais aussi Christ, tel qu'un lion, en tant que bête féroce. Cette dernière caractéristique comparaison peut peut-être surprendre, et je peux le comprendre, bête féroce, ça fait un peu négatif, mais lisons ensemble dans Osée aussi, au chapitre 5, versets 14 à 15, je vais le prendre dans la version d'Arbi, pardon. Car je serai comme un lion à Éphraïm, et comme un jeune lion à la maison de Juda. Moi, je déchirerai, et je m'en irai, j'emporterai, et il n'y aura personne qui délivre. Je m'en irai, je retournerai en mon lieu jusqu'à ce qu'ils se reconnaissent coupables et recherchent ma face. Dans leur détresse, ils me chercheront dès le matin. Et un peu plus loin dans le même livre, au chapitre 13, je serai pour eux comme un lion, comme une panthère, et je les épierai sur la route. Pour remettre dans le contexte aussi de ces versets, durant le 8e siècle avant Jésus-Christ, Israël se trouvait dans une situation difficile. Il y avait des voisins puissants au nord, au sud. Israël était souvent pris entre les deux. Et pour gérer cette difficulté, Israël faisait des accords avec ses voisins, cherchant toujours à jouer un allié contre un autre. Dans Osée, chapitre 5, par exemple, Israël recherchait l'aide de la Syrie. Mais Israël avait perdu complètement foi en Dieu. Et Dieu s'est finalement fatigué de les voir aller d'un allié à l'autre, au lieu de le rechercher lui, leur Seigneur. Et il a alors décidé de juger Israël, et comme un lion, il leur sauterait dessus et les attaquerait, et les laisserait ensanglantés au bord du chemin. Un lion féroce envers le péché du peuple. Et c'est encore valable aujourd'hui. Si nous négligeons l'appel du Seigneur à venir à lui, à changer notre attitude, nous ne pouvons pas nous imaginer que nous échapperons aussi à ce jugement. Il faut avoir conscience aussi que Dieu ne l'a pas fait par plaisir. Un lion ne tue pas par plaisir, il tue pour vivre, par nécessité. Et là, cette image, où quand Dieu a agi ainsi, c'était la manière que Dieu a choisie parce que c'était nécessaire. Nécessaire pour rappeler à Israël qu'il était en train de craindre les mauvaises choses. Au lieu de craindre les autres peuples, Israël aurait dû craindre le Seigneur. Il aurait dû s'inquiéter des offenses qu'il faisait envers lui. Et Jésus nous a dit quelque chose d'ailleurs de semblable, qu'on peut lire dans Matthieu. Il nous a dit « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Et oui, trop souvent, nous craignons les gens, les situations, les désastres, les changements qui nous entourent. Or, c'est le Seigneur que nous devons craindre. Proverbe chapitre 9, verset 10, un verset que nos enfants connaissent parce qu'on apprend quelques versets par cœur, donc je pense que je pourrais presque leur demander, mais... Bon, elle le sait. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. C'est ce que Dieu a voulu enseigner à Israël en leur rappelant qui il devait craindre. Et pour cela, il a dû devenir comme un lion. Non pas pour les tuer complètement, mais en réalité, pour les sauver. Dieu voulait les ramener vers cette crainte de l'Éternel, vers cette vie où tout ce que nous le faisons selon sa volonté, et non selon la nôtre. Afin de lui plaire, afin de lui rendre gloire, de lui rendre honneur, reconnaissance. Et car Dieu sait que si nous vivons ainsi, alors nous saurons aussi prendre les bonnes décisions pour notre vie, et non pas celles qui nous amèneront tout droit vers l'enfer, tout droit vers la mort éternelle, tout droit loin de Dieu. Alors oui, il est bon de craindre les choses appropriées. Et cette chose, ben, plutôt c'est pas une chose, mais nous, il est bon pour nous de craindre Dieu. Et de toujours garder en tête que quand il a besoin de l'être, le Seigneur est un lion. Féroce, fort, mais en réalité juste et bon. Et que tout cela est fait pour notre bien, pour notre salut. Donc, tout ceci nous explique déjà pourquoi Christ pouvait aussi appeler le lion et le lion de la tribu de Juda. Et on va revenir maintenant sur le verset 6, qui est la suite. Et juste avant cela, mais je ne vais pas le détailler vraiment ce matin, on peut voir à la fin du verset 5, mais je vais quand même le citer, un autre nom qui a été utilisé pour parler de notre Seigneur, qui est le rejeton de David. Je ne vais pas développer cette appellation, mais n'hésitez pas à lire notamment dans le livre d'Ésaïe au chapitre 11, qui nous parle du Messie, justement, de ce rameau qui sortira du tronc d'Isaïe, d'un rejeton qui naîtra de ses racines, du rejeton d'Isaïe qui sera là comme une bannière pour les peuples, et les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Mais revenons donc à cette vision qui nous est présentée donc au chapitre 5, à la fin de ce verset 5, à ce moment précis, je pense que, tout comme nous, l'apôtre devait s'attendre à voir arriver ce lion. Ce lion, encore une fois, qu'il devait imaginer sûrement fort, puissant, avec une belle crinière, peut-être une mâchoire puissante, un lion victorieux. Mais que nous dit le texte ? Le texte nous dit « Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. » Alors que nous attendons à voir le lion de la tribu de Juda, crinière au vent, rugissant avec force peut-être, au lieu de ce lion, c'est un agneau. J'ai pu lire dans un commentaire que le mot agneau était utilisé près de 29 fois pour décrire Jésus-Christ dans le livre de l'Apocalypse. Et cette comparaison avec le mot agneau existe bien évidemment ailleurs dans les Écritures. On peut lire par exemple que Jean-Baptiste a désigné Jésus comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Pierre nous a parlé également du sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Même dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe, chapitre 53, il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Et il n'a point ouvert la bouche. Mais ces 29 fois dans Apocalypse sont un peu différentes. Apocalypse renforce encore cette image de l'agneau en utilisant un mot grec différent de celui utilisé dans les autres livres. Parce qu'il existe en effet deux mots en grec qu'on peut retrouver et que nous on traduit par agneau et qui sont Amnos et Arnion. Amnos est le mot qui est utilisé dans les autres passages donc que j'ai cité dans Jean, dans l'évangile de Jean, la première épître de Pierre, Ésaïe. Et c'est un mot qui est, on pourrait dire aussi, traduire comme un agneau, comme au sens général de l'animal. Voilà, l'agneau dans son sens général. Mais le mot Arnion qui est utilisé dans l'Apocalypse amène quelque chose en plus. Il fait référence à l'animal, mais en réalité, il évoque un jeune agneau, un agnelé même, on peut dire. Et si Jean utilise ce mot dans son livre, c'est parce qu'il souhaite souligner ce fait important. C'est que tout comme un jeune agneau est doux et docile, Christ a donné sa vie de son plein gré et personne ne lui a prise. Cet agneau est le symbole de la soumission de Christ à l'autorité de Dieu. En entrant dans le monde, le Christ a dit à Dieu « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, tu m'as formé un corps. Alors j'ai dit « Voici, je viens. » Dans le rouleau du livre, il est question de moi. « Je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. » On peut le lire dans le livre aux Hébreux, l'Épître aux Hébreux. Et ce sacrifice, d'ailleurs, est visible, directement et physiquement, sur cet agneau qui nous est montré. Car quelle est son apparence ? Celle d'un agneau immolé, assassiné, tué, massacré, égorgé. Tous ces mots sont des synonymes de immolé. Alors c'est une image forte qui nous est donnée ici, un agneau immolé. un agneau qui porte encore sur lui les marques de la croix, les marques de la souffrance endurée pour nous, les marques de ce sacrifice de Jésus-Christ qui s'est donné pour satisfaire au jugement qui pèse sur l'humanité. Christ, qui tel un agneau pur et sans défaut, comme je l'ai dit tout à l'heure, a versé son sang précieux pour nous. Lui, l'agneau immolé qui s'est chargé de nos péchés, afin que nous soyons réconciliés avec Dieu, afin que nous puissions vivre. Ce qu'il faut comprendre avec cette image du sacrifice de Christ, encore visible dans les lieux célestes, parce que cette scène se passe dans les lieux célestes, c'est que Jésus-Christ est celui qui nous a aimés. Jésus-Christ est celui qui s'est donné pour nous. Mais Jésus-Christ est aussi celui qui intercède encore en faveur des siens auprès du Père. Je reprends un verset de l'Épître aux Hébreux. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Cet agneau porte ses marques de souffrance, marques qui pourraient être considérées à première vue aussi comme une marque peut-être de faiblesse, une marque de défaite. Il l'est immolé, et il le fut effectivement lors de son agonie sur la croix. Mais l'agneau a repris vie, la vie même de Dieu. Il a été le vainqueur de la mort, il est ressuscité. Christ est vivant. Et Romains 8 nous dit, Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Oui, Christ est ressuscité. Et c'est pour cela que lui seul peut ouvrir le livre. C'est grâce à sa victoire sur la mort et sur toutes les puissances du mal, grâce à son obéissance totale à Dieu, que Christ peut connaître, que Christ peut révéler les secrets de Dieu et qu'il contrôle aussi les choses qui arriveront. Christ a gagné la plus importante des batailles. En mourant sur la croix, il a vaincu toutes les forces du mal. Un agneau est fragile, vulnérable, sans défense, et pourtant cet agneau a été victorieux. Une victoire remportée non par la force, mais par son sang, par sa mort. Christ, l'agneau, le sacrifice parfait pour les péchés de tous les hommes, offrant la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui et qui placent leur confiance en lui. Hébreux chapitre 2 verset 9 nous dit « Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. » Toujours dans le même chapitre, verset 14, « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. » Le chemin de la victoire a dû passer par la mort de Jésus, mais aujourd'hui c'est bien Christ qui est vainqueur. Lui, le roi des rois, lui qui a rendu impuissant celui qui avait la puissance de la mort. Chapitre 17 dans Apocalypse nous dit « Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, et les a appelés les élus et les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. » Dans la seconde partie de ce verset 6, on peut aussi noter encore deux aspects à cet agneau. Il est l'agneau aux sept cornes et aux sept yeux. Dans les Écritures, notamment dans l'Ancien Testament, les cornes, qui sont une image tirée du monde des animaux, symbolisent la force et la puissance. Pour reprendre plusieurs passages, je ne vais pas les lire, mais dans Deutéronome chapitre 33, par exemple, où Moïse parle des cornes de Joseph, qui sont comme les cornes d'un bœuf sauvage, et avec elle, il poussera le peuple jusqu'aux extrémités de la terre. Dans un roi, on peut trouver aussi les cornes de fer qui permettront de triompher sur les Syriens. Zacharie a la vision des quatre cornes aussi, qui représentent les nations qui ont dispersé Israël. Et ces cornes signifient donc que cet agneau porte sur lui les blessures sacrificielles, on vient de le voir, mais en même temps, il est revêtu de la puissance même de Dieu, qui peut désormais briser ses ennemis. Leur nombre est important, 7 cornes. Et le chiffre 7 dans la parole représente en général la perfection. Et donc 7 cornes symbolisent l'autorité et la puissance absolue de cet agneau. Une puissance parfaite, au-delà de toute résistance. Et par cette puissance, l'agneau est digne de contrôler, donc capable de régir l'univers dans son intégralité. Par sa puissance infinie, Jésus-Christ peut détruire tous ses ennemis, mais il peut aussi sauver parfaitement tout ce qui vient à Dieu par lui. Et enfin, le dernier trait inhabituel qu'on ne voit pas sur un agneau habituellement, hein, c'est que Jean rapporte que cet agneau a 7 yeux. 7, et ces 7 sont les esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Cette image vient notamment aussi du livre du prophète Zacharie, où le prophète voit les 7 lampes qui sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Cette image qui représente en réalité l'omniscience de Dieu, c'est-à-dire sa connaissance parfaite, totale, de tout ce qui se passe sur la terre. Il n'y a aucun endroit d'ailleurs sur terre qui ne soit sous le regard de Dieu. En préparant, j'ai vu qu'il y avait plusieurs interprétations possibles aussi justement sur qui sont ces 7 esprits envoyés dans toute la terre. Celle que je vais partager avec ou retenir pour ce matin, qui est celle qui me semble la plus probable, mais qui est d'ailleurs a priori celle qui est la plus probable pour la majorité, sont que ces 7 esprits de Dieu sont en fait le Saint-Esprit. Et le chiffre 7 ne serait pas là pour parler de cet esprit différent, mais du Saint-Esprit dans sa perfection, dans sa complétude. Le Saint-Esprit qui nous a été envoyé. Envoyé pour convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Envoyé pour être notre aide, notre défenseur et notre guide. Il est écrit, quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous. Vous avez été envoyé pour que l'esprit de la vérité nous conduise dans toute la vérité. Pour qu'il donne gloire à Christ en toutes choses. Dans l'évangile de Jean, on peut lire « Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Vous avez été envoyé pour qu'il dispense aux croyants les dons spirituels, afin de nous permettre de fonctionner comme le corps de Christ sur terre. Et que nous soyons aussi ambassadeurs de Christ dans ce monde, manifestant sa grâce et le glorifiant. Mais aussi pour porter des fruits dans nos vies, avec les Saint-Esprit qui habitent en nous. Des fruits tels que l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Ça, on peut le retrouver dans Galates au chapitre 5. Alors oui, frères et sœurs, ce matin, en reprenant ces deux images, en prenant ce passage, je veux vous inviter en fait à retrouver aussi cette crainte de l'Éternel. À retrouver cette crainte envers notre Seigneur Jésus-Christ. Lui, le lion puissant, dont la force fut de s'être abaissé pour devenir l'agneau immolé. Mais lui qui, en s'immolant comme un agneau, fut en réalité fort comme un lion. Lui qui a souffert et est le roi glorieux qui règne éternellement. Lui qui revient nous chercher comme il l'a promis. Et lui à qui revient l'honneur, la gloire, la louange. Alors oui, que tout genou fléchisse devant le lion et l'agneau, que tout genou fléchisse devant Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.